Leur travail est d'étudier nos comportements alimentaires et les nouvelles pratiques ou tendances qui façonnent l'alimentation de demain. Avec le temps des ripailles qui s'achèvent, des chercheurs s'interrogent sur les transformations en route dans nos assiettes. C'est l'objet d'un livre qui réunit des scientifiques dans différents domaines pour tenter d'imaginer ce que nous allons manger dans les prochaines décennies. Et c'est aujourd'hui le dossier de la tête au carré avec mes invités. Toutes vos questions dès maintenant, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Agnès Fèvre, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, cette question: à quoi vont ressembler les batteries du futur?
Stocker de l'énergie partout et à bon marché, c'est le pari de nombreux scientifiques et industriels. Et pour cela, la batterie s'avère incontournable. Alors comment la rendre plus performante, plus écologique, moins chère? On en parle avec Jean-Marie Tarascon, professeur au Collège de France.
C'est Céline Hila qui réalise aujourd'hui l'émission, préparée par Camille Jusot et toute l'équipe de la Tête au Carré qui se joint à moi pour vous souhaiter une année la plus douce possible.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et donc l'alimentation de demain, dossier de la Tête au Carré dans un instant avec mes invités, les géographes Gilles Fumet et Daniele Zappala. Bonjour à Bonjour. Vous deux. Et le biophysicien Christophe Lavelle. Bonjour à vous.
Bonjour.
Gilles Fumet, est-ce qu'il faut s'attendre à de gros bouleversements dans nos assiettes, là, les prochaines années qui vont arriver?
Oui, exactement. Autant qu'à la fin du XVIIIe siècle, à la Révolution, au cours de laquelle on a vu Lavoisier inventer la chimie et ouvrir la boîte de Pandore de la nutrition scientifique, et aussi le restaurant. Et autant la chimie et le restaurant ont façonné nos manières de manger, autant dans les années qui viennent, ce qui se prépare dans les laboratoires aux États-Unis et évidemment la révolution de la livraison à domicile, tout ça va évidemment complètement changer notre manière de manger.
Christophe Lavelle, on voit ces nouvelles tendances déjà apparaître aujourd'hui dans les écoles de cuisine par exemple?
Dans les écoles de cuisine, on essaye effectivement de se tenir au courant et à jour des pratiques. Différentes pratiques avec lesquelles et grâce auxquelles on peut transformer les aliments, et ça bien entendu ça fait bien entendu partie de l'évolution de la profession.
Oui. Daniele Zappala, est-ce que dans un pays comme l'Italie, on va beaucoup en parler avec vous, on observe les mêmes changements dans l'alimentation?
Oui, mais à partir d'une tradition qui en fait essaye toujours de faire du neuf à partir des legs des siècles. Et donc il y a toujours cette tentative synthétique qu'on observe encore aujourd'hui.
Et on va se retrouver donc dans un instant pour en discuter avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et donc sur les réseaux avec le mot-clé l'attaque.
La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et à la une de la science aujourd'hui, des pistes vers des batteries plus performantes et moins polluantes.
On crée sans cesse de nouveaux types de batteries. Toutes ont en commun de pouvoir stocker plus d'énergie que les actuelles batteries lithium-ion. Mais rien que le perfectionnement des batteries actuelles pose déjà un grand défi à la science.
Avec à l'instant un extrait de l'émission Xinus sur Arte, la batterie au cœur des changements dans le paysage énergétique et face à la hausse de la demande portée en particulier par la voiture électrique. Comment concilier les performances et l'écologie? Question au cœur d'une publication parue dans Nature Materials et que vous signez, Jean-Marie Tarascon. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes professeur au Collège de France, spécialiste de la chimie du solide. Et puis comme tous les lundis, nous sommes avec Hervé Kempf, notre confrère de reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Quels sont Hervé les enjeux de ces batteries du futur aujourd'hui?
Eh bien, ils sont que d'abord, cet objet qui était encore marginal prend de plus en plus d'importance dans nos vies et va en prendre de plus en plus. Alors, c'est d'abord dans ces téléphones et ordinateurs portables qui sont devenus notre deuxième cerveau ou notre troisième main, mais c'est aussi avec l'auto électrique qui est encore marginal sur le marché automobile, mais qui est en train de prendre son envol avec plus de 60% au niveau mondial. Et selon l'agence Bloomberg, l'auto électrique représentera 35% du marché automobile en 2040. Et puis, encore marginal mais vraiment important, le stockage, le rôle du stockage d'énergie par la batterie en association avec les énergies nouvelles et notamment le solaire qui sont en plein développement. Donc ces usages se développent, on sait qu'elles vont se développer de plus en plus et pour une fois les scientifiques semblent prendre conscience des conséquences écologiques du développement de cette technologie parce que elle est fondée quand même sur des métaux qui sont plus ou moins rares. Au cœur des batteries, il y a le lithium notamment, il y a aussi le cobalt et d'autres minéraux, donc il faut économiser la ressource. Il faut aussi limiter l'impact écologique lié à l'extraction de ces minéraux et puis réduire la consommation d'énergie nécessaire. Il faudrait 400 kWh d'énergie pour produire une batterie qui délivre 1 kWh d'énergie. Donc vous voyez qu'il y a énormément de progrès à faire, d'autant plus que cette fabrication émet 75 kg de CO2, donc le bilan écologique n'est pas encore parfait. Et c'est à ces questions que tente de répondre Jean-Marie Tarascon et son collègue pour prévoir l'avenir des batteries.
Jean-Marie Tarascon, aujourd'hui les batteries reposent surtout sur la technologie du lithium-ion. Les réserves sont-elles suffisantes sur la planète ?
Alors oui, effectivement, il y a eu pas mal de débats il y a de cela 5 ou 6 ans sur la pénurie qu'il pouvait avoir au niveau du lithium, des articles dans les journaux. Mais il ne faut pas gagner un pas paniquer, car je dirais qu'aujourd'hui, dans ce cas, eh bien, on peut avoir une production annuelle de 32 500 tonnes, alors que les réserves sont estimées à 40 millions de tonnes. Donc vous pouvez voir quand même qu'il y a encore des limites. Mais je dirais, l'autre voie importante, c'est qu'on pourra recycler ce lithium. Et ça, lorsqu'il y aura des incitatives au niveau gouvernemental, européen, cela pourra se faire, car on a les procédés aujourd'hui pour le faire.
Oui, donc on ne le fait pas encore, ce recyclage, pour l'instant ?
On ne le fait pas encore, parce qu'on n'en est pas entièrement obligé. Si on regarde les normes européennes, aujourd'hui, on nous demande directement de recycler 55% de la masse de la batterie. Mmh. Et comme le lithium est l'élément léger, eh bien, par conséquent, on ne va pas aujourd'hui recycler le lithium. Mais on a les moyens.
Et on peut tenir combien de temps encore avec le lithium ?
Mais avec le lithium, je crois qu'on peut tenir encore pas mal de siècles, si je peux dire.
Ah bon, carrément ?
Malgré qu'il va y avoir une demande énorme du véhicule électrique, mais c'est là où le recyclage va devenir important, et surtout des technologies alternatives, dont notamment le sodium, qui là, comme vous le savez, est très abondant sur la croûte terrestre.
Donc on pourrait remplacer donc le lithium par du sodium, par exemple ?
Alors on peut remplacer du lithium par du sodium, et c'est ce qu'on fait au niveau, je dirais, français, dans le monde actuellement, où on essaie de développer une technologie alternative au lithium-ion. Cependant, elle n'aura pas les performances du lithium-ion. Ce qui fait que vous ne verrez pas du sodium-ion dans vos portables, vous pourrez ni dans le véhicule électrique, mais par contre, c'est pour tout ce qui est application réseau, énergie renouvelable. Et, je dirais, pour être couplé peut-être avec le photovoltaïque.
Au-delà du recyclage, l'autre problème écologique, c'est comment produire ou comment recharger ces batteries qui seront peut-être de plus en plus nombreuses et vouées à être plus performantes avec l'évolution des modes de transport. Et comment on va faire alors ?
Alors, au niveau des recharges, bien sûr, il y a une amélioration au niveau des matériaux pour avoir des électrodes qui aient beaucoup plus de puissance. Mais il y a également toutes les méthodes de recyclage par effet inductif, alternatif, ainsi de suite, que l'on met en place. Et dans certains téléphones portables, dont Sony a rapporté il n'y a pas longtemps un moyen de chargement de portables par induction.
Donc là, c'est vraiment un des grands défis, hein, pouvoir recharger justement ces batteries.
Et voilà. Et comment on peut finalement recharger en quelques minutes, comme vous prenez directement de l'essence à la
station. C'est ça. Le gros problème est la limite aussi pour ces voitures électriques, hein, qui sont pleines de promesses, mais qui quand même butent sur, par exemple, ce problème du rechargement des batteries.
Voilà. Donc ça, effectivement, au jour d'aujourd'hui, ça demande des matériaux encore plus performants et surtout des systèmes de connexion, je dirais, plus étudiés et plus spécifiques pour ce genre d'application.
Hervé Kempfer.
Est-ce que vous envisagez une évolution progressive vers ce futur que vous décrivez, ou est-ce qu'il y aura besoin de passer un saut technologique à un moment ? Est-ce qu'il y a un point où il y a un blocage ou une limite ?
Non, je pense qu'il n'y a pas de blocage ou de limite, c'est la science, les recherches qui vont nous mener à cela. Mais au jour d'aujourd'hui, je dirais que la technologie à ion lithium est une technologie qu'on a encore pour un siècle, même plus, car elle est vraiment très performante. Ce qui est plus important, c'est finalement d'aller dans l'abaissement du coût pour des applications plus grandes. Et c'est là finalement où toutes nos recherches s'accentuent fortement aujourd'hui, c'est comment dans le futur, pour le véhicule électrique, on va assurer la traçabilité de ces batteries. Et il est important, même pour vos objets connectés, de savoir quel va être l'état de santé. Et c'est là tout un domaine de recherche...
L'état de santé des batteries. Hein.
L'état de santé des batteries. Et c'est là tout un domaine de recherche foisonnant qui est en train, je dirais, d'éclater parmi les chercheurs, où on essaie finalement d'assurer cette traçabilité. C'est-à-dire, on veut faire de la batterie un corps humain. Vous avez une carte vitale, dans le futur, est-ce que chaque batterie pourra avoir sa carte vitale ? Et c'est un peu finalement ce que nous sommes en train de faire dans le cadre, je dirais, des recherches en France. Il y a un DIM qui s'est monté à Paris récemment, où on va essayer directement de coupler les chercheurs provenant du stockage d'énergie avec ceux de la médecine. Car on a beaucoup à apprendre.
Et ça, c'est, pour le moment, c'est à l'état embryonnaire ?
Oui, là, c'est à l'état embryonnaire. Je dirais notre rêve, notre aventure.
C'est quoi votre rêve? C'est de créer vraiment un médecin de la batterie? C'est ça, au fond, l'idée?
Mais oui, je dirais, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que comme, par exemple, dans le corps humain aujourd'hui, on vous met des puces pour regarder, pour traiter le diabète. Mm-hmm. Lorsque vous avez une opération, vous avez une fibre optique pour savoir ce qui se passe au niveau des tissus, ainsi de suite. Eh bien, ce qu'on cherche de faire, c'est que dans le futur, votre accumulateur aura une borne positive, une borne négative, et ensuite, je dirais, une sortie analytique pour avoir toutes ces connexions. Oui. D'où on peut y mettre des capteurs, et ainsi de suite. Oui. Et on peut aller encore plus loin. Si maintenant, on comprend finalement quelle est la maladie de la batterie, on va pouvoir l'auto-réparer. Et la raison pour laquelle, là aussi, on va essayer de voir avec des molécules organiques, des auto-réparants pour faire cela.
Hervé.
La maladie d'une batterie, c'est quoi concrètement?
Alors la maladie d'une batterie, c'est au fur et à mesure que vous l'utilisez, vous avez une augmentation d'impédance, vous avez une défaillance, souvent qui provient d'un décollement entre votre électrode et vos collecteurs de courant, et qu'il va falloir rassembler à un moment donné.
Et quel genre de chercheur peut être le médecin de la batterie alors?
Mais un médecin, comme toujours, comme toutes les évolutions, qui va être polyvalent.
Oui.
C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, la polyvalence, le travail aux interfaces, devient primordial, je dis, sine qua non.
Oui. Et avec plusieurs disciplines qui vont travailler ensemble. Voilà. Donc il y a plein de métiers là, qui vont naître, peut-être, hein,
mais je l'espère,
dans le futur, pour améliorer les performances et puis l'écologie aussi de ces batteries. Ouais. Merci beaucoup Jean-Marie Tarascon. Ça fait l'objet donc d'un article, publication donc, qui est paru dans Nature Materials. Et puis on retrouve évidemment ces informations sur le site de Reporter, Hervé.
Absolument.
En ce début d'année. On vous souhaite très heureuse à toute l'équipe de Reporter.net et on se retrouve lundi prochain. Agnès, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des protéines dangereuses du virus Zika qui viennent d'être identifiées. Une équipe de l'école de médecine de l'université du Maryland a pour la première fois intégralement décrit le génome du virus Zika, ce qui a permis aux chercheurs de séparer individuellement chacune des 14 protéines de la cellule. Et grâce à des tests sur une espèce de levure, ils ont identifié les 7 protéines pouvant potentiellement endommager des cellules humaines, publiées par le journal PNAS. Cette découverte est importante car aucun vaccin ou médicament pouvant prévenir ou guérir les symptômes de ce virus n'existe aujourd'hui. Obamadon gracilis, Scaloplaça obamae, Aptosticus Barack Obamae, dénominateur commun de ces espèces récemment découvertes Barack Obama, les scientifiques ont voulu rendre hommage au président américain en s'inspirant de son nom pour nommer 9 nouvelles espèces, parmi elles une espèce disparue de lézard ou une araignée de la forêt californienne. Fait notable, une des espèces, le tosanoïde Obama, est un poisson qui ne vit que dans une seule réserve marine du Pacifique, réserve qu'Obama a élargie cette année, donnant ainsi le plus grand espace écologiquement protégé de la planète. Et puis enfin, la revue Science qui publie son top 10 des images scientifiques les plus remarquables de l'année 2016, d'un couple de bonobos qui s'ausculte les yeux à une oreille artificielle baignant dans son jus, en passant par une carte souterraine de la Lune. Ces très belles images illustrent des découvertes ou des avancées scientifiques de ces 12 derniers mois. Et vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur la page Facebook de La Tête au Carré. Et l'alimentation du futur, c'est le dossier dans un instant. Respect est la voix d'Otis Redding à l'instant.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Un peu de prospective pour commencer cette nouvelle année et pour parler de l'alimentation de demain. C'est d'abord un livre écrit par un collectif de scientifiques et c'est donc le dossier de l'émission avec mes invités pour en parler. Jules Fumet, vous êtes géographe. C'est vous d'ailleurs qui avez dirigé cet ouvrage sorti aux éditions du CNRS. Daniele Zappala, vous êtes géographe et Christophe Lavelle, vous êtes biophysicien au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous êtes chercheur invité au pôle alimentation de l'Institut des Sciences et de la Communication du CNRS. Et tous les trois, vous faites partie du laboratoire de réflexion autour de l'alimentation, le Food Lab 2.0, avec un site qu'il faut vraiment aller voir. Il y a beaucoup d'articles très intéressants autour de cette réflexion sur l'alimentation de demain, sur food20.fr. Il est en lien, évidemment, sur La Tête au Carré, avec les questions des auditeurs qui nous rejoignent, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Alors, pour rentrer dans cette discussion, dites-nous d'abord quelles sont vos singularités à chacun, dans quel domaine particulier est-ce que vous travaillez dans ce domaine de l'alimentation, et pourquoi Gilles Fumet, les géographes s'intéressent autant à ce que nous avons dans nos assiettes.
Les géographes ont remarqué tout simplement, ou ont fait remarquer tout simplement que lorsque vous servez du champagne, que vous buvez du Bourgogne ou du Bordeaux, vous servez de la géographie. Et donc, à table, nous n'avons fait que cela pendant les vacances. Donc, les géographes s'intéressent, se sont véritablement intéressés depuis une vingtaine d'années à l'alimentation, notamment dans les problématiques de mondialisation. Ouais. Il y a une vingtaine d'années, on avait tous peur en France de terminer au fast-food. Et donc, on a lancé vraiment cette question-là et on s'est dit finalement que cette mondialisation, elle s'accompagnait d'une forme de reformatage du patrimoine, en tout cas donc reconstruction du patrimoine. Mmh. Et donc le local est apparu à ce moment-là et donc on travaille sur ces questions-là, le jeu entre le local et le global. Mais là aujourd'hui, on a vraiment essayé d'aller un peu plus loin et de réfléchir donc aux raisons pour lesquelles, entre autres, la Californie et notamment Google s'intéressent à l'alimentation et sont en train de reformater probablement une partie de ce qu'on mange.
Donc il y a d'une part du culturel et du territoire dans ce que nous mangeons, évidemment, d'où l'intérêt des géographes. Ouais. Et puis il y a une façon aussi de pouvoir imaginer le monde de demain avec déjà, on le sent bien, ces différents territoires alimentaires qui sont en train de bouger considérablement aujourd'hui.
Oui, alors en fait ça s'imbrique plus que ça ne bouge parce que c'est pas tout à fait des plaques tectoniques qui se
déplacent et qui se chevauchent.
C'est vraiment quelque chose qui s'imbrique et qui fait que si aujourd'hui vous avez déjeuné à Radio France, vous avez probablement mangé des aliments dont certains ont été pensés par l'industrie et demain par les nouvelles technologies, les hautes technologies de la Silicon Valley. Et ce soir, ou à la fin de la semaine, lorsque vous aurez célébré un anniversaire, que vous ferez la galette des rois, à ce moment-là, vous serez dans un autre type, une autre culture. Hein. Et au fond, c'est cette capacité que nous avons justement de marier tout cela.
Et un très bon exemple, on l'a justement avec nos voisins italiens, Daniele Zappala, hein, parce que là, on a un bon compagnonnage entre nos deux pays, qui sont ultra complémentaires d'ailleurs dans ce domaine alimentaire.
Hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans le cadre de la mondialisation dont tu parlais, Gilles, effectivement, il y a ces cas très particuliers des relations culinaires entre la France et l'Italie et je m'occupe effectivement d'essayer de tracer les dynamiques d'influence entre conceptions culinaires. Il y a eu une époque où effectivement des peurs très importantes ont surgi, on s'est croyait vraiment dans les collimateurs de visées hégémoniques de la part en provenance des États-Unis, de Chine, etc. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, et la géographie essaye de tracer des orientations, que les choses sont plus compliquées et que même au niveau local, il y a la possibilité parfois de répondre à ce qu'on croyait hégémonique, à cette sorte de rouleau compresseur, effectivement en provenance de ces grandes puissances.
C'est quoi? C'est une sorte de résistance de la culturelle, justement?
Voilà, c'est une résistance qui est parfois implicite, qui se joue au niveau de notre cognition, et c'est un volet vraiment très intéressant, encore peu exploré, parfois volontariste, et on voit par exemple, des grands mouvements comme Slow Food qui ont essayé de fédérer des énergies vraiment au niveau local.
Et qui sont nés en Italie d'ailleurs.
Nés en Italie, mais qui aujourd'hui rayonnent dans le monde entier.
C'est absolument partout, absolument. Christophe Lavelle, qu'est-ce qui intéresse alors le biophysicien dans cette histoire alimentaire?
Biophysicien, oui, ben, un biophysicien, c'est assez simple. C'est un physico-chimiste qui s'intéresse à la matière et notamment, dans mon cas, à la matière vivante.
Oui.
Et dans l'alimentation, évidemment, on a affaire à de la matière vivante, puisque tout ce que nous mangeons au départ est vivant. Et ce vivant, nous le transformons. Donc nous transformons, c'est-à-dire quand on cuisine, on applique à cette matière que nous récoltons dans la nature des traitements qui font appel à des réactions chimiques.
Oui, c'est ça, on fait de la chimie.
On fait de la chimie et de la physique. J'insiste, parce que souvent on dit la cuisine c'est de la chimie. Étant physicien, j'aime bien aussi rappeler que c'est quand même beaucoup de physique. Quand je fais une mayonnaise, par exemple, il n'y a aucune réaction chimique. Il y a une transformation de la matière qui est purement physique, dans le sens que les molécules que je mange quand je mange ma mayonnaise sont exactement les mêmes que celles que je mangerais si je mangeais tous les ingrédients séparément. Donc il y a énormément de physique dans la transformation de cette matière et évidemment de la chimie. À partir du moment où il y a des réactions, souvent quand il y a des cuissons notamment, ou des marinades avec des milieux acides ou des choses comme ça. Donc c'est cette science de la transformation de la matière qui m'intéresse d'un côté, mais de l'autre côté au muséum on fait en fait ce qu'on appelle l'épigénétique, et ça touche beaucoup l'alimentation, parce qu'en fait, notamment pour prendre un exemple le plus célèbre, dans une ruche avec des abeilles, la différence entre les ouvrières et la reine, elle est purement épigénétique et en l'occurrence purement due à l'alimentation. C'est-à-dire qu'une même larve, si je la nourris avec de la gelée royale ou avec du pollen, j'obtiens soit une ouvrière, soit une reine. Mmh. Et à partir de là, on se rend compte de l'importance, avec cet exemple un peu extrême, de l'importance que peut avoir l'alimentation sur l'expression des gènes et donc sur notre métabolisme.
Donc c'est l'environnement au sens très très large,
exactement,
dont fait partie l'alimentation et la façon justement dont cette alimentation et cet élément venu de l'extérieur va influencer notre corps.
Tout notre corps et nos cellules. Et un grand sujet qui revient aujourd'hui et toujours sur la table, c'est le sujet du microbiote intestinal, dont on pourra reparler et qui est en train d'exploser dans la recherche.
Ouais. Ça, c'est une nouvelle conscience qu'au fond ont les populations sur le rôle précisément de la flore intestinale et la façon dont les aliments aussi peuvent nous influencer d'un point de vue extrêmement large.
Alors c'est une nouvelle conscience qu'ont les populations grâce à un certain nombre d'ouvrages de vulgarisation. On a le fameux Charme discret de l'intestin qui a été un best-seller, effectivement, qui permet, et puis de plus en plus d'articles de vulgarisation qui ouvrent justement toute cette perspective qui concerne le microbiote et qui touche les aspects santé très très large, toutes les maladies dégénératives, mais aussi les syndromes type autisme, donc des choses qu'on a du mal à connecter à l'alimentation et qui pourtant aujourd'hui, à travers le microbiote, semblent l'être.
Donc on voit bien, Gilles Fumet, là, les différents regards qui sont posés. Ce sont quelques exemples parmi tant d'autres, puisque vous avez sollicité plusieurs scientifiques justement pour écrire sur cette alimentation du futur. Et on voit vraiment que les disciplines, chacune, ont des choses à nous raconter là-dessus.
Alors, comme nous appartenons à un institut des sciences de la communication, et c'est pas un hasard que dans ce laboratoire fondé par Edgar Morin, on ait voulu parler d'alimentation. Mmh. On a bien axé le point de départ sur le fait que aujourd'hui, notamment à cause des crises alimentaires, l'alimentation était un vrai sujet qui intéressait tout le monde. Comme
c'est ce qui est à la base aussi de ces bouleversements, justement, ces crises sanitaires et ces scandales à répétition.
Oui, bien sûr, et c'est d'abord ces crises sanitaires, elles existent parce qu'il y a des outils de communication qui vont permettre à la fois de débusquer les fraudes. Je prends par exemple, sans parler de crise sanitaire, mais je prends par exemple le cas de ce que fait l'association L214 avec
le scandale des abattoirs.
Voilà, bon, là, on est dans des milieux complètement fermés et la caméra va chercher des images exactement comme le magnétophone du majordome de Madame Bettencourt va chercher des conversations. Et avec la technologie, on va chercher quelque chose qui n'était pas accessible à un certain moment et qui le devient et qui passe dans l'opinion publique et qui elle s'empare avec Internet, entre autres avec les réseaux sociaux, de ce sujet et qui se dit par exemple, on découvre qu'il y a 40% de la population française qui souffre de constipation. On parle pas de ces problèmes personnels de constipation, personne va évoquer ça, mais chacun a l'affaire dans la tête et essaie de se dépatouiller avec ça. Et quand on va voir ce médecin, on vous dit toujours, prenez de l'huile d'olive, enfin, ou c'est rien, ou ça va passer, ou je sais pas quoi, buvez de l'eau et du thé, et puis en fait, non, ça passe pas. Voilà. Et la raison pour laquelle, on a parlé de Julie Enders qui vend son livre à des millions d'exemplaires, c'est qu'elle s'adresse à des gens qui se posent cette question, mais pourquoi avec cette nourriture aussi abondante et apparemment aussi bonne, je souffre autant dans mon corps? Voilà. Et là, on voit bien que la communication, donc, joue un rôle très important dans cette réappropriation qu'ont les mangeurs de leur choix.
Donc on voit cette remise en question très forte aujourd'hui qui caractérise vraiment ces bouleversements alimentaires du point de vue donc Daniele Zappalà, sanitaires, environnementaux principalement. Hein.
Oui, et c'est ce qu'on a vu également en Italie. Il y a eu en fait à partir des années 80 un véritable tournant écologique, à savoir les grands chefs, par exemple, un nom parmi d'autres, Gualtiero Marchesi, ont prôné le retour à une valorisation du lien entre les cuisiniers, vu d'abord en tant que mangeurs au milieu d'autres mangeurs, et les liens écologiques. Et donc, effectivement, il y a eu une réflexion qui a abouti non seulement au mouvement comme Slow Food qu'on évoquait tout à l'heure, mais également à une prise de conscience progressive également de la part des mangeurs. Il y a eu bien évidemment toute une série de scandales liés aux excès de l'agro-industrie. Et donc effectivement, l'Italie est devenue un laboratoire important de cette prise de conscience de la nécessité d'un lien retrouvé, d'une écologisation de l'alimentation.
Alors justement, on verra dans un instant les grandes innovations scientifiques et techniques à venir et qui marquent aussi ce changement dans nos assiettes, puisque nous parlons de l'alimentation du futur avec vous et avec les auditeurs qui nous rejoignent avec toutes les questions sur le site de La Tête au Carré. Bon après-midi avec nous.
Dissiper les masses mouvantes des dissiper les masses mouvantes des tourneaux dans le matin pâle. Aujourd'hui avale, quelqu'un du pays avale, venu jusqu'au puits avale, dans le matin pâle. Avale, au nom de la nation, la nation, la nation, la nation. Tomber tôt, tôt, on voit tomber son seau dans le matin pâle. Aujourd'hui avale, quelqu'un du pays avale, venu jusqu'au puits avale, on attend l'eau. Là-haut, avale.
La nation et la voix de Bertrand Belin.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Le repas est prêt!
Et Gilles Fumet, Daniele Zappala, Christophe Lavelle, mes invités autour de ce livre, L'alimentation demain, culture et médiation aux éditions du CNRS. Et donc, toutes ces questions sur ce que nous allons manger demain. Et justement, Christophe Lavelle, vous qui vous intéressez à l'expertise scientifique de l'alimentation, nourrir autrement la planète, là, c'est un des grands défis aussi, à la fois de réflexion et d'innovation.
Alors, c'est un grand défi. On va dire que c'est un double défi, car les enjeux qui reviennent souvent et qui sont mis sur le devant de la table sont à la fois les enjeux de santé d'un côté, oui, et les enjeux écologiques, c'est de ça, l'autre, dans lesquels il y a aussi l'enjeu éthique qu'on mélange souvent avec l'écologie, mais qui est quand même un domaine à part. C'est un débat qui est finalement plus philosophique, mm-hmm, que scientifique, même si les scientifiques peuvent essayer de répondre à la question de la souffrance animale sur des critères neurologiques, on va dire. On va mettre ça un peu de côté pour le moment, on en reviendra peut-être. Et donc sur les aspects santé et écologique, ce sont deux domaines, on va dire, qui font appel à des concepts totalement différents, mm-hmm, mais auxquels les scientifiques s'intéressent bien entendu, les biologistes comme les chimistes. Et on voit bien que dans notre manière d'inventer les modèles alimentaires de demain et le système alimentaire de demain, il va falloir tenir compte à la fois de ces deux enjeux.
Et procéder à des modifications de nos habitudes.
Hein. Et procéder à des modifications drastiques de nos habitudes.
Absolument. Alors il y a plein de questions justement à ce sujet-là. Lucie par exemple demande par quoi est-ce qu'on peut substituer les protéines carnées? Où trouve-t-on les plus gros réservoirs protéiques dans l'alimentation aujourd'hui?
Alors substituer les protéines carnées, c'est pas difficile aujourd'hui, dans le sens qu'il y a effectivement une aberration qui est relativement bien reconnue dans notre système justement de production végétale, qui pour le moment est majoritairement utilisé pour nourrir les animaux qui eux-mêmes nous nourrissent. Mmh. Donc il y a une déperdition phénoménale. Il faut savoir que quand on produit, il faut produire environ, alors je donne des ordres de grandeur, mais 15 à 16 kilocalories de végétal, en général de céréales, pour produire 1 kilocalorie de viande. Mmh. Donc c'est absurde. En fait, plus de la moitié de la production mondiale d'orge, de millet, d'avoine, de maïs, sert à nourrir le bétail. Alors que dans ces mêmes ingrédients, que ce soit pour les céréales ou que ce soit pour les légumineuses sur lesquels on pourra revenir, il y a une richesse en protéines extraordinaire. 20 grammes pour 100 grammes dans les lentilles, par exemple. Et puis pour le soja, on est à 30 grammes pour 100 grammes. On se rapproche tout à fait de la viande. On est autour de 25 grammes par 100 grammes de protéines. Donc on a une source de protéines qui est déjà abondante, mais qui pour le moment, en fait, est très peu utilisée dans l'alimentation directe et passe par une alimentation du bétail. Et c'est sans doute une des principales aberrations de notre système agricole actuel.
Avec donc beaucoup de choses autour des protéines végétales, l'exemple du soja, vous venez de le citer. Un extrait d'un documentaire Demain tous végétariens, c'était une question qui était posée dans le rendez-vous Tout compte fait sur France 2 en avril dernier.
70% du soja mondial est génétiquement modifié. Les végétariens et autres végétaliens exigent du soja non OGM. Eric et Marie-Lise ont vu le marché s'emballer ces deux dernières années.
On va ensemencer toute cette partie, plus le vallon de l'autre côté.
En soja.
D'habitude, on s'arrêtait, on va dire, on faisait la moitié de la parcelle, quoi. On faisait une dizaine d'hectares. Puis maintenant, il faut doubler les parcelles pour arriver à 50, 60 tonnes. Et encore, quelquefois, j'en ai pas assez. Alors ça, c'est la gousse de soja.
Ça, c'est donc ce qu'on récupère dans le champ.
Voilà, c'est des petites gousses qui font 2 à 3 grains. Il y a 2 à 3 grains par gousse. Et là, on a le soja à l'intérieur.
Et donc ça, c'est du soja.
Et ça, c'est du soja. Voilà le soja.
Cette année, ils ont récolté 60 tonnes. Ils vendent les graines près d'un euro le kilo à leurs clients. Alors, 25 elles seront transformées en lait, en tofu et en steak végétal.
Voilà, Gilles Fumet, un apport important, donc le soja par exemple, au niveau des protéines végétales, mais pas à n'importe quel prix, hein. On l'entendait, le soja OGM, attention, hein.
Bien sûr,
surtout dans nos pays d'ailleurs. Hein.
On est dans un processus là d'industrialisation de la nourriture, ouais, qui passe donc par des pratiques qui sont intensives, on va dire, et qui font que effectivement on s'est lancé dans cette production massive de soja dans les pays de l'hémisphère sud. Voilà. Donc en gros, hein, ça c'est voilà. Alors après, je pense que ce qu'il faut voir surtout, je crois que c'est que cette nourriture que nous remettons en question, Nous pouvons d'autant plus la remettre que nous pouvons la penser par d'autres nourritures qui vont arriver, qui sont en train de se mettre en place. Mmh. Et dans un écosystème qui, normalement, n'était pas du tout dédié à l'alimentation, puisque la Californie, elle a inventé le jus d'orange, mais rien d'autre. Elle a implanté de la vigne à partir de la France. Là, dans les laboratoires, avec des grandes universités, avec des biologistes et des firmes de la nouvelle technologie, on invente quelque chose de complètement différent. Et ça c'est vraiment inattendu, très nouveau. Ce sont des sociétés qui ont quand même des très gros capitaux et qui vont nous permettre de repenser justement notre stock de protéines, non pas seulement à partir de la viande et du soja, mais à partir d'autres choses que Christophe peut développer, et qui est donc la fabrication en laboratoire d'aliments à partir de souches
du levain. Alors, oui, Christophe Lavelle, qu'est-ce qu'on nous prépare là justement dans ces laboratoires?
Qu'est-ce qu'on nous prépare? C'est-à-dire qu'il y a une, comme on l'a vu, il y a une pression. Tout à l'heure, Gilles a parlé d'associations type L214, où effectivement, on a en fait deux catégories de consommateurs, on va dire aujourd'hui. Ceux qui refusent catégoriquement l'alimentation animale, donc on va classer chez les végétariens et les végétaliens, donc pour des raisons éthiques, et ceux qui ont décidé de diminuer la part d'alimentation animale dans leur consommation, et là c'est beaucoup plus pour des raisons écologiques, bien entendu. Et cette population devient de plus en plus bruyante et importante, et donc évidemment, sous cette pression des consommateurs, un certain nombre d'industriels et d'universitaires et de laboratoires travaillent sur une alimentation qui, justement, permettrait de diminuer la quantité et l'utilisation, de diminuer ou d'éliminer, dans certains cas de figure, l'alimentation animale. Et pour inventer des nouveaux produits, on a effectivement quelques exemples, dont les plus célèbres nous viennent, il faut le reconnaître, de Californie.
Alors, quels sont-ils?
Ben, par exemple, pour le steak végétal. Il faut savoir que pour l'instant, si on veut... Il existe déjà des steaks végétaux. Alors pour ça, on va dans des magasins végétaliens. Mmh. Et puis, on va au rayon steak végétal, ce qu'on appelle les simili carne. Et on a des espèces de galettes.
Oui, des espèces de, oui.
C'est ça. C'est des espèces de galettes, avec effectivement souvent du soja, du blé, et puis un certain nombre d'additifs tout à fait infâmes. Mmh. Donc, un procédé qui permet, qui évite de tuer une vache, certes, mais qui, on est dans la junk food, mais la junk food végétalienne. Alors, à partir de là, on peut évidemment mieux faire. Alors, il y a heureusement une marge de progrès, et c'est là-dessus que beaucoup d'entreprises travaillent pour essayer, dans la même logique, de faire un steak, mais un steak qui, pour le coup, ressemble réellement à un steak. Et c'est un certain nombre d'entreprises comme Impossible Food, donc en Californie, qui, depuis 2-3 ans, travaillent sur des technologies qui permettent d'avoir quelque chose qui ressemble, qui ressemble à l'œil, mais aussi en bouche, avec la juteosité, avec le gras grâce à des graisses végétales, avec des colorants issus de la betterave, par exemple, pour avoir cette couleur-là.
Sanguine,
et pour qu'on puisse mettre ça dans un burger, et pour que l'Américain puisse manger son burger sans tuer de vache.
Ouais. Vous parliez du soja tout à l'heure, il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent, par exemple, autour de cet aliment, qui est aussi un perturbateur endocrinien. En fait, il y a des questions quand même très sérieuses, Daniel Zapala.
Oui, des questions très sérieuses, nous viennent bien évidemment des recherches, et les anthropologues, entre autres, nous apprennent que des choses fondamentales. L'aliment est un objet sensoriel total, et l'incorporation n'est jamais quelque chose d'évident, d'anodin, quand il y a en fait effectivement ces grandes poussées d'innovation alimentaire. Et en même temps, il y a tôt ou tard une centralité des mangeurs qui peuvent justement refuser ou orienter et indirectement les innovations alimentaires. Donc cela, en fait, amène toujours à une certaine prudence face à un certain discours qui pourrait être considéré de déterminisme technologique. Et cela, on l'a vu en Italie. Le XXe siècle italien a été caractérisé par des grands personnages visionnaires comme Marinetti, le chef de file du futurisme, qui disait « il faut véritablement effacer cette chose horrible, les pâtes des tables italiennes. »
Les pâtes, dire ça, voilà. Des Italiens.
Et aujourd'hui, un siècle après, on voit que les résultats, les pâtes ont conquis le monde pour toute une série de raisons. Et donc, effectivement, l'Italie est un peu l'un de ces laboratoires qui nous apprennent que, bien évidemment, l'innovation est fondamentale, mais ensuite, il y a toujours cette capacité des mangeurs, et parmi les mangeurs, les cuisiniers, qui sont, eux aussi, peut-être, en fait, au premier rang des mangeurs, qui ont cette capacité de sélectionner, voire d'orienter c'était l'alimentation.
Mais on le voyait dans l'exemple de Christophe Lavelle avec son steak justement végétal, on voit que c'est très difficile de changer nos habitudes quand même. Hein.
Oui, changer nos habitudes, d'autant plus qu'elles sont très ancrées depuis des siècles. Aujourd'hui, il y a effectivement cette vague de végétalisme et, par exemple, les Français, pour faire un exemple, le long de l'axe franco-italien, voient en fait l'alimentation italienne comme une alimentation très végétale, alors que les Italiens savent très bien que ce n'est pas le cas. Mais effectivement, les Français ont une certaine vision qui est le résultat de toute une série de médiations symboliques, de stratifications historiques. Et donc, bien évidemment, les chercheurs peuvent proposer, mais ensuite, il y a toujours ce rôle d'arbitre des mangeurs qui est fondamental.
Gilles Fumet, alors...
En fait, le fait de parler de viande sans viande, et de lait sans lait, et d'œuf sans, de mayonnaise sans œuf, va nous obliger à redéfinir l'alimentation. Après tout, la mayonnaise, c'est une invention assez récente. Sans passer, on peut très bien imaginer qu'on fasse des déclinaisons complètement différentes. Quant à la viande, effectivement, c'est quelque chose de plus ancien. Mais si vous voulez, je ne suis pas sûr que on met dans le mot viande, même en mangeant un méchoui qui ressemble beaucoup à quelque chose qu'on mangeait dans des banquets romains ou grecs, le même sens et les mêmes mots. Et je pense que la désanimalisation de la viande, hein, dont parlait Noélie Vial, qui a consisté à mettre en barquette et sous forme de lamelles des choses qui étaient vivantes, hein, et qui n'ont plus de rapport avec l'animal, a sans doute contribué à nous éloigner de l'animal, à nous éloigner des plantes aussi, parce que ça s'est passé également pour les plantes. Et là, on a, je crois, une prise de conscience aujourd'hui que peut-être c'est pas forcément la bonne solution. Peut-être que les produits qui viennent de cette révolution-là ne sont pas si bons que cela. Il y a quand même des maladies neurodégénératives dont on sait qu'elles sont en partie liées à cela. Et puis, il y a un troisième acteur auquel je suis assez sensible parce que je suis géographe, qui est la montée de l'Asie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, quand on parle de nombre de restaurants dans le monde, on cite toujours McDo. Mais si on additionne tous les restaurants chinois ou tous les restaurants japonais qui se montent dans le monde, on en a bien plus que des restaurants américains. Donc, vous voyez, il y a quelque chose...
Et des habitudes alimentaires qui font beaucoup plus écho à nos préoccupations et à notre sensibilité...
Exactement, des habitudes
alimentaires. D'une nourriture plus naturelle.
Et puis qui correspondent mieux à notre habitude de consommer en Europe, qui est une habitude... pas culinaire, c'est-à-dire qu'on va demander aux Chinois de nous faire de la cuisine, de la véritable cuisine, et on va demander aux Japonais par les sushis, où on va prendre de la fraîcheur. Voyez, et en même temps, la fraîcheur qu'on mettra dans notre snacking, et on voit que l'Asie qui est en train de monter, elle nous aide considérablement à modifier notre modèle alimentaire.
Et on se retrouve dans un instant pour la suite de notre discussion franceinter.fr avec les messages des auditeurs.
Just sit around and cry. On s'aperçoit par rapport à un produit, c'est qu'à chaque phase de sa dégustation, il aurait presque une température idéale de dégustation. Et on va le voir, parce qu'on va avoir une texture plus gélifiée, on va avoir une texture mousse, on va avoir une texture cristallisée par le froid, on va avoir une texture à température ambiante, et on va voir qu'à chaque fois, on aura une émotion de goût de betterave différente.
Donc là, ça veut dire qu'en fait, on travaille à la fois sur les températures, sur les textures, et aussi sur l'aspect visuel.
Bien sûr. J'avais un maître au Japon, un maître de cuisine, qui me disait toujours, la cuisine, ça se regarde, ça se médite, et ça se mange. C'est vrai, regarder, être séduit par des éléments qu'on va déguster, qu'on va ingérer, c'est extrêmement important.
Voilà Jean-Luc Rochat qui travaille avec le chef Thierry Marx dans C'est pas sorcier en 2013 pour parler de la cuisine moléculaire. Christophe Lavelle, par exemple, dans ce domaine de l'alimentation du futur, vous qui êtes biophysicien, est-ce que d'abord ça a toujours le vent en poupe ou pas? Ou est-ce que c'est un peu passé de mode, la cuisine moléculaire?
Alors la question est importante parce que c'est le mot moléculaire qui fait beaucoup parler de lui.
Oui.
Alors pour faire court, parce que le sujet est complexe, ce qui est très important, c'est de distinguer deux choses. D'une part, la gastronomie moléculaire et d'autre part, la cuisine moléculaire. Sachant qu'historiquement, la gastronomie moléculaire était la première, c'était dans les années 80-90 où les chercheurs ont commencé à travailler et à réfléchir à ce qui se passe dans les cuisines domestiques. Et à partir de là, c'est de la gastronomie, puisque c'est de la connaissance raisonnée de ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit, d'après la définition historique de Brillat Savarin, 1825. Et du coup, le moléculaire vient juste rappeler que cette description et cette étude a lieu à l'échelle moléculaire. Donc on pourrait paraphraser en disant c'est la connaissance à l'échelle moléculaire de ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Donc on est vraiment dans la physico-chimie de ce qui se passe quand on cuisine et éventuellement quand on mange. Donc c'est une science, donc à ce titre-là, évidemment, elle a un très bel avenir devant elle puisque les questions se posent par milliers. Mais comme en même temps, il y a effectivement des cuisiniers qui sont mis à faire des choses un peu hyper technologiques, bizarroïdes, parfois en travaillant justement avec des scientifiques, les journalistes, car ce sont eux, pour le coup, se sont mis à utiliser le mot cuisine moléculaire. Or, comme la cuisine, c'est l'art d'apprêter les mets, ça veut dire que c'est l'art d'apprêter les mets à l'échelle moléculaire, ce qui n'a pas beaucoup de sens d'un point de vue linguistique, mais c'est resté comme mot pour qualifier une cuisine en fait hyper technologique, dans laquelle on va beaucoup travailler sur les textures, sur les modes de cuisson basse température, éventuellement en utilisant des nouveaux ingrédients, des nouveaux gélifiants issus de l'industrie agroalimentaire, de l'azote liquide, mais pas forcément. On peut tout simplement travailler sur le procédé avec une connaissance scientifique qui va nous permettre de rénover le procédé. Et ça, alors, on peut l'appeler cuisine moléculaire. Les chefs eux-mêmes souvent réfutent cette appellation. Et par exemple, un des papes du domaine, Ferran Adrià, qui a fait beaucoup parler de lui
en Espagne,
qualifiait sa cuisine de techno-émotionnelle, pour dire qu'il utilisait la technique au service de l'émotion.
Et il y met de l'émotion.
Et il y met de l'émotion.
Justement, ce qu'on ne ressent pas toujours dans cette appellation de gastronomie moléculaire.
De cuisine
moléculaire. Alors, les questions des auditeurs, Alexandre nous demande ceci. Est-ce que l'alimentation par les insectes peut sauver l'humanité de la famine? À titre de comparaison, 100 grammes de grillon équivaut à 150 grammes de steak. Quel est l'avenir dans ce domaine? Qui veut répondre? Gilles Fumet?
Oui, non, mais c'est pas aberrant d'imaginer que les insectes qui sont très largement consommés dans la zone tropicale et qui sont appréciés en Afrique ou en Asie puissent, dans certains cas, par le biais de l'alimentation animale, nous fournir en protéines et effectivement diminuer la part de l'élevage industriel. Voilà. Bon. Après, on croquait quelques grillons dans un prochain cocktail de la tête au carré, c'est pas mal, mais ça va pas nourrir l'humanité.
Oui. Daniele Zappala, le grillon à la sauce tomate en Italie, est-ce que ça a de l'avenir ou pas?
Oui, cela pourrait en avoir, parce qu'effectivement, toute l'histoire de la cuisine italienne est finalement une histoire d'adaptation, souvent à des contraintes écologiques. Effectivement, on est devant de nouveaux horizons en termes de contraintes écologiques. Effectivement, l'Italie, la cuisine italienne, avec leur capacité d'inclusion, pourrait bien être amenée à importer même des grillons ou bien d'autres insectes.
Ouais. Le grillon de Parme, comme on parle des jambons.
Voilà. C'est ça, exactement. Christophe Lavelle, est-ce que la biophysique peut nous apprendre à trouver le bon équilibre alimentaire? Parce qu'on dit toujours manger équilibré, mais il n'y a pas plus subjectif au fond que cette notion dans l'alimentation,
alors,
non?
Oui, alors c'est pas, non, c'est, heureusement, c'est pas tant subjectif que ça, dans le sens où il y a quand même beaucoup de physiologie derrière. Je sais pas si c'est la biophysique qui est la mieux adaptée pour ça, c'est plutôt effectivement la physiologie. Et en termes, on vient de parler des insectes, qui est effectivement une source de protéines intéressante. De mon point de vue, ça reste quand même assez anecdotique dans notre culture, et c'est plus quelque chose dont on parle aujourd'hui pour faire le buzz, comme on dit, mais je suis pas convaincu que ça soit la source à aller chercher, sachant qu'on a déjà à notre portée des solutions, j'allais dire, beaucoup plus convaincantes et effectives. On a parlé des céréales, on a parlé des légumineuses, de manière générale des végétaux. Aujourd'hui, une alimentation équilibrée, il faut reconnaître que la viande apporte ça de manière facile, dans le sens que c'est un aliment qui est riche avec ce qu'on appelle des bonnes protéines, des protéines facilement assimilables, et donc qui a cette réputation de permettre et d'être parfois nécessaire, comme on le dit parfois, pour un régime équilibré. Ce qui n'est pas le cas, dans le sens où on peut parfaitement choisir de se passer de viande, mais pour ça, et c'est là où la différence se fait, ça nécessite un peu de culture, pour le coup, un peu de connaissance de produits. Et si on décide de se passer de viande, il va falloir réfléchir à par quoi on va la remplacer.
Oui, et la question des carences, demande Alexandre sur franceinter.fr, justement.
Alors justement, la question des carences, c'est souvent celle qu'on met en avant, enfin celle que mettent en avant les anti-végétariens, et donc les pro-viandes, en disant, oui, mais c'est impossible d'avoir un régime équilibré, justement, puisque, notamment en acides aminés, il y a une vingtaine d'acides aminés dont on a besoin, il y en a 9 qui sont essentiels. Ces 9-là, ils sont essentiels parce qu'on ne peut pas les faire nous-mêmes, donc il faut qu'on les mange. Or, ils sont tous présents dans la viande, donc on va dire, ben, en mangeant de la viande, on a réglé la question. Le fait est qu'ils sont moins présents dans les végétaux, mais en fait, ils sont présents, mais de manière différente. Autrement dit, par exemple, les légumineuses vont être riches en lysine, mais pauvres en méthionine. À l'inverse, les céréales sont riches en méthionine, mais pauvres en lysine. Donc, la solution, elle est toute simple, il suffit de mélanger les deux. Si je mange mon plat de lentilles avec du riz, ce que font d'ailleurs beaucoup de recettes traditionnelles qui ont trouvé ça de manière empirique, on va dire, on voit partout dans le monde, beaucoup de plats de céréales sont associés à des légumineuses, et avec ça, on a l'équilibre parfait, on a tous les acides aminés dont on a besoin. Donc, on a, d'un point de vue physiologique, absolument pas besoin de manger de viande. On peut le manger par plaisir, mais on n'a absolument pas besoin, d'un point de vue physiologique, de manger de viande.
Gilles Fumet, pour conclure, qu'est-ce qui se dessine à l'avenir donc, dans nos assiettes? Alors, on a compris que les petites pilules qui vont remplacer toute l'alimentation, c'est très utopique. Hein. A priori, on ne se dirige pas du tout vers ça. En revanche, de belles tendances, comme par exemple celle qui consiste à contourner la malbouffe.
Oui, on va, je crois, bien séparer ce qu'on doit manger quand on est pressé, quand on est au travail, quand on est dans un avion, en termes de mobilité, où là, on va se contenter forcément de ce qu'on va trouver, même si, effectivement, l'offre est en train de changer. Et d'autre part, on va se faire plaisir. Là, je parle de l'ère chinoise et l'ère européenne, on va dire, où le week-end, le 14 février, à la Chandeleur, à Pâques, eh bien, on trouvera des prétextes pour se réunir et pour célébrer cet événement avec de la nourriture qui sera souvent cuisinée, souvent partagée, voilà, et qui aura un sens un peu différent de celles dont on aura eu besoin la veille pour rentrer très tard sur l'autoroute lorsqu'on a été saisi d'une fringale.
Il faudrait compter avec des pays, des continents émergents, l'Afrique en particulier, dans ces nouvelles habitudes.
Voilà, donc ça c'est la véritable inconnue. C'est effectivement avec l'Afrique qui va doubler sa population dans les années qui viennent qui est aux portes de l'Europe et qui s'installe en Europe. Il va y avoir une transmission d'un certain nombre de cuisines africaines, mais les cuisines africaines sont nettement moins élaborées qu'en Asie, et à mon avis, c'est encore pour quelques années.
Daniele Zappala, qu'est-ce que notre couple franco-italien peut nous dire de cette alimentation du futur, alors?
Il peut nous dire qu'il y a toujours de la place pour l'innovation, mais dans le respect, effectivement, de la capacité des mangeurs de rester critique, et bien évidemment, pour qu'ils restent critiques, il faut également une politisation en quelque sorte de l'alimentation, et l'Italie mais également la France présentent des beaux exemples de prise de conscience pour que les mangeurs deviennent des acteurs et pas tout simplement
des consommateurs.
Et les bonnes pratiques dans les programmes scolaires également, Christophe Lavelle, ça c'est important pour...
Là il serait urgent effectivement de revenir à l'éducation domestique à laquelle on avait le droit avant, qui malheureusement a disparu. Aujourd'hui, pour bien se nourrir, il faut... Le meilleur levier pour bien se nourrir est de savoir cuisiner, puisque c'est le meilleur contrôle qu'on peut avoir sur son alimentation, c'est de la préparer soi-même. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand on va, et je vais souvent dans les écoles pas seulement professionnelles, mais entendu les écoles de manière générale, on a c'est catastrophique de voir l'inculture des élèves par rapport à l'alimentation, et c'est sans doute un des leviers sur lesquels il faut absolument agir.
Allez, j'ai fumé 10 secondes à peine.
J'étais dire que c'est pas aussi simple, malheureusement, parce que la Suisse, qui a un enseignement scolaire de cuisine, est un pays dévasté par la malbouffe.
Bon, eh bien écoutez, l'année commence bien grâce à vous. Merci beaucoup. L'alimentation demain aux éditions du CNRS. Merci beaucoup à tous les trois. Fabrice Drouel.
Bonjour, Mathieu.
Bonjour. Affaires sensibles dans un instant.
Je vous emmène en Grande-Bretagne. C'est pas forcément là qu'on mange le vif. Tout le monde peut pas être l'Italie, hein, monsieur. Pour le train postal Glasgow-Londres, qui était vraiment le casse du siècle du 7 au 8 août 63, 50 millions d'euros dérobés, pas un coup de feu, pas un mort, mais c'est rien.
Pas mal.
Notre invité, ce sera Doron Levy, criminologue, lui-même fasciné par cette histoire.
Et merci Alexandre Chenet et Valentin Hazan Zilinski qui étaient à la technique aujourd'hui. Bonne journée sur France Inter, il est 15h.